Bonjour, frères et sœurs. Je suis vraiment content que vous soyez là. Cette semaine, on a une nouveauté. On voulait quand même améliorer un petit peu votre expérience sur le site web. Donc, ce qu'il y a de nouveau cette semaine sur le site, lorsque vous allez chercher le message enregistré, à côté, il y a une parenthèse qui est écrite « Notes ». Si vous cliquez sur ce lien, vous allez avoir accès à la présentation PowerPoint qui correspond au message. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, quand j'étais jeune, on avait des petits livres avec un disque 45 tours à l'époque à l'intérieur. Et c'était un. Dans le fond, la personne faisait la lecture du livre et il nous disait lorsque vous entendrez le signal sonore suivant, donc la clochette, ce sera le temps de tourner la page. Donc, si vous ouvrez la présentation PowerPoint, lorsque vous entendrez ce signal, vous aurez seulement qu'à tourner la page sur votre ordinateur avec la flèche de droite ou avec le page down qu'on appelle. Donc, cette semaine, je ne sais pas comme moi si vous êtes allé à l'épicerie, mais il y a vraiment littéralement une panique qui s'est installée autour du COVID-19, là. Dans les épiceries, c'était vraiment tombé sur la tête, effectivement. Plus de papier de toilette, plus de mouchoirs, les comptoirs à viande étaient vides, plus de désinfectants. Ils ont dû faire venir la police, on a entendu dire, dans un certain commerce, parce que deux personnes se chicanaient pour le dernier paquet de papier de toilette. Mais c'est quand même spécial. Les gens n'ont pas d'espérance, ils n'ont rien à quoi s'accrocher et ils vont paniquer lorsqu'il arrive quelque chose comme le virus coronavirus ou le COVID-19 comme ça ici présentement. Même on voyait aux nouvelles là, les gens avec des paniers pleins de papier de toilette au Costco. Ils vont en avoir probablement pour les 5 prochaines années. Et vous connaissez un petit peu les médias aujourd'hui. Bon, c'est sûr qu'ils en mettent un petit peu trop, mais ils sont capables même de suivre les gens jusqu'à chez eux. Et ils ont suivi justement une personne comme ça qui est sortie avec une montagne de papier de toilette en se demandant qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça. Et ils ont trouvé ce qu'on appelle la panic room. Et vous pouvez tourner au prochain diapo. Vous allez voir la fameuse panic room et on comprend pourquoi la personne avait besoin d'autant de paquets de rouleaux de papier de toilette. Non, sérieusement, mais c'est quand même pas drôle. C'est quand même pas drôle que notre société réagisse comme ça. Ça démontre comment que nos compatriotes sont vraiment sans espoir. Pour revenir à notre message maintenant. Donc, il y a deux semaines, je vous ai laissé au beau milieu de notre étude sur Romains 9. Je sais que ce n'est pas bien, bien fin de ma part, mais rappelez-vous qu'à partir du chapitre 9, Paul répond à la question « La promesse faite à Abraham a-t-elle été annulée par l'Évangile? » Où? Ce qu'il dit, il est dit au verset 6, où est-elle restée sans effet? Mais c'est ce que ça veut dire. Nous avions convenu qu'il nous faut rester bien accrochés au texte, au vrai sens du texte, si vous vous rappelez, le VS, ici, et à son contexte, pour éviter de tomber dans des erreurs qui se sont produites par le passé et qui, selon moi, sont déplorables. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons vu que, malgré ce que Paul s'apprête à affirmer, il tient le peuple juif en sa plus haute estime. Ça, c'était les versets 1 à 5. Nous avons vu aussi que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité d'Abraham, pas ses enfants selon la chair, les versets 6 à 8. Cette affirmation devait soulever une tollée d'objections de la part des Juifs. Alors, Paul doit rappeler à ses lecteurs que Dieu est libre de décider en toute légitimité des conditions que l'homme doit rencontrer pour obtenir miséricorde et faire partie de sa promesse ou pas. Ça, c'était les versets 9 à 16. Et finalement, nous avons vu au verset 17 à 23 que Dieu a aussi le droit de livrer celui qui s'est égaré à son propre égarement. Donc, en endurcissant son cœur, comme il l'avait déjà démontré au premier chapitre, vous vous rappelez dans 1, 18 et les suivants, que parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés, et etc. Donc, déjà, nous comprenons que la postérité d'Abraham est une postérité de cœur et non de sang. Dieu a établi une règle pour être ses enfants, donc les héritiers de la promesse, les élus, dont nous parle ici le texte, et conformément aux 8 premiers chapitres de son ouvrage, ce n'est pas par nos œuvres, mais par la foi en Jésus seulement. Règle que Paul va répéter seulement 25 fois. Oui, 25 fois dans les 8 premiers chapitres, Paul va revenir, et même à la fin de notre chapitre actuel, pour s'assurer qu'on demeure dans le contexte, pour s'assurer que nous ne sommes pas égarés en chemin comme certains. Et dans le chapitre 10, qu'on va voir la semaine prochaine, on va voir encore que Paul va revenir sur ce sujet-là. Regardez quelques textes, justement. Au verset 11 de Romains 9, on voit « sans dépendre des œuvres ». Au verset 32, l'ont cherché comme provenant des œuvres. Et verset 10-30, qu'on verra la semaine prochaine, cherchant à établir leur propre justice. Donc ça, c'est pour nous dire que ce n'est pas par les œuvres. Et si on prend l'idée de « par la foi », verset 30, la justice qui vient de la foi, verset 32, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ça, c'est ce que les Juifs cherchaient. Chapitre 10, verset 6, la justice qui vient de la foi. Chapitre 10, verset 8, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, est-ce que Paul pourrait être plus clair que ça? Les héritiers de la promesse, les élus, ce sont ceux qui sont justifiés par la foi. Voilà le dessein d'élection de Dieu. Maintenant, nous nous sommes laissés au verset 20 avec l'illustration du potier. Donc, réalisez avec moi Romains chapitre 9 à partir du verset 20 jusqu'à 23. Si, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça juste qu'on se courbe, demander au Seigneur de nous éclairer. Seigneur, on veut te remercier encore une fois du privilège d'ouvrir ta parole. On est conscient qu'on est présentement dans un texte qui est difficile à comprendre. Et Seigneur, je te prie d'ouvrir notre intelligence, de nous aider à comprendre ce texte. Utilise ma bouche, Seigneur. Aide-moi à être clair, à bien communiquer cette vérité. Et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Donc, c'est une illustration intéressante ici et qui pouvait évidemment soulever bien des questions si on ne savait pas déjà que Paul est en train de répondre à une question bien précise. La question que les théologiens se posent ici, c'est est-ce que Dieu a créé l'homme juste pour l'envoyer ou a créé certains hommes juste pour les envoyer en enfer alors qu'il en a créé d'autres pour le ciel? Donc, le nœud de leur questionnement, c'est est-ce que les personnes ont une part à voir dans la décision d'aller au ciel ou en enfer, ou est-ce que c'est seulement décrété par Dieu et qu'on n'y peut rien? C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Est-ce que les êtres humains ont un libre arbitre ou c'est tout contrôlé par Dieu? Mais ça, ce n'est clairement pas le but de Paul ici. ni le contexte de son argumentation. Alors, la réelle question que nous devons nous poser, c'est en quoi l'image du potier ajoute-t-elle à la réponse à la question « La promesse faite à Abraham a-t-elle été annulée par l'Évangile? » Alors, examinons l'illustration du potier à cette lumière. Donc, est-ce que ça veut dire que Dieu a décrété que maintenant je vais faire 5 vases non-juifs pour l'enfer, après ça je vais en fabriquer un juif pour le ciel? Moi, je comprends plutôt ce texte-là dans le sens que Dieu savait que cette personne le rejetterait et il l'a façonné avec une grande patience au verset 22, avec beaucoup d'amour. Je crois que cette compréhension est plus naturelle, car Paul mentionne que dans sa grande patience, Dieu a supporté des vases de colère. Malheureusement, ces vases de colère sont majoritaires parmi les Juifs. On va y revenir. Nous avions parlé de Judas dans la conclusion du message du 1er mars. Même si Dieu savait que Judas le trahirait, qu'il vendrait son propre fils, il ne l'a pas conçu difforme pour autant. Dieu est tellement patient envers nous, en fait tellement plus patient que nous-mêmes. Il a été patient pour supporter ou endurer Judas, même en sachant pertinemment qu'il formait cette langue de vipère pour le rejeter, pour le vendre pour quelques misérables pièces d'argent. Donc, Dieu le façonnait en sachant qu'il finirait ultimement en enfer. Dieu, de la même façon, use de grande patience envers les Juifs qui le rejettent en grande majorité. Alors, dans ce contexte, la règle décrétée par Dieu pour être héritier de la promesse s'applique à tous, juifs comme non-juifs. Alors, nous sommes tous sur le même point de départ. Qu'on soit juif, qu'on soit païen, on est condamné au feu éternel. Comme on l'a souvent répété jusqu'ici, pour avoir violé l'alliance initiale de Dieu. Dieu était toujours maître de pourvoir une autre alternative pour que nous puissions accéder au salut éternel. Et ça, nous n'avons aucune juridiction pour contester ces conditions-là avec Dieu, avec celui qui nous a créés et qui maintenant veut nous faire grâce. Alors, si quelqu'un choisissait plutôt de faire des bonnes œuvres pour mériter son ciel, comme les Juifs ici, Dieu serait-il assez injuste pour l'envoyer en enfer, versets 14 et 15 de Romains 9, mais il n'y aurait là aucune injustice. Dieu aurait pu nous laisser tous moisir en enfer et ça aurait été juste. Mais voilà qu'il a assez aimé les humains pour leur donner une autre porte, la seule porte qui pourrait leur permettre d'entrer au ciel malgré leurs nombreux péchés. Jésus est cette porte. Or, ceux qui sont prédestinés, ce sont ceux qui sont élus, ce sont ceux qui empruntent cette porte. Ceux-là, Dieu les a préparés en sachant pertinemment qu'il les préparait pour la gloire et pour la miséricorde. Les autres ont été préparés en sachant pertinemment qu'il les préparait pour subir la colère, la perdition. Verset 22. Voyez-vous, dans ce contexte, tous les morceaux du casse-tête se mettent en place, que l'élection et la prédestination sont relatives au chemin, à la porte empruntée, et non pas à des individus choisis d'avance pour le ciel ou l'enfer. La prédestination dont il est question ici est en conséquence du choix que nous faisons, la réponse que nous faisons à son appel. Quand nous passons par le chemin que Dieu a décrété, comme le seul chemin, alors nous sommes prédestinés à être transformés à l'image de son fils. Comme nous disait le texte, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Donc, vous voyez l'idée, connus d'avance. Dieu savait à l'avance qui ce seraient ces personnes-là. Puis la prédestination dont il est question, c'est de devenir semblable à l'image de son fils, comme on l'a vu il y a deux semaines. Ici, c'est exactement la méprise qu'ont fait les Israélites. Ils ont cru que les héritiers de la promesse étaient les enfants de sang d'Abraham. Mais ils ont oublié bien des détails, comme le rejet d'Ismaël et de ses descendants, le rejet d'Ésaü et de ses descendants, comme nous l'avons vu il y a deux semaines. Ce n'étaient donc pas les enfants de sang qui étaient les héritiers de la promesse, mais ceux qui rencontraient le critère que Dieu avait fixé, c'est-à-dire la foi en Jésus. Alors, ce critère peut être rencontré par n'importe qui, de n'importe quelle nation, n'importe quel sexe, n'importe quelle couleur, n'importe quelle langue. Exactement comme Dieu l'avait promis à Abraham dans Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'était déjà clair dès le départ que qui serait la postérité d'Abraham. Il faisait partie de toutes les nations. C'est toutes les nations, pas seulement Israël, qui allait être bénie en lui. Maintenant, sixièmement, les Juifs sont peu nombreux à accepter de vivre la règle définie par Dieu. Les versets 27 à 33. Lisons-les ensemble. J'ai oublié de lire les autres. J'en ai sauté un. Donc, 27 à 33. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Je vais commencer à 24, tiens, parce qu'on a oublié de le lire tout à l'heure. Donc, ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas ma bien-aimée. » Et là où il disait, « Vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Donc, c'est là qu'on voyait que Juifs comme non-Juifs ont accès à ce salut. Et maintenant, verset 27 à la fin. Donc, Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement. » et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Les Israélites ont cherché le salut par leurs œuvres. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas trouvé, au verset 32 à 33. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la condition que Dieu avait décrétée pour faire partie du peuple élu. Les païens, pour leur part, en cherchant par la foi, ont emprunté le seul chemin que Dieu avait décrété pour leur salut. Et eux sont devenus le peuple élu. Voyez-vous, comme moi, qu'il n'est pas dit que les Juifs ne sont pas tous fils de la promesse parce que Dieu ne les a pas élus, mais parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu de la bonne façon ou au bon endroit. Ce n'est donc pas à cause de la compréhension calviniste de l'élection, mais à cause de la seule règle établie par Dieu, à laquelle il cherche à soustraire finalement. Or, les Juifs peuvent aussi emprunter ce même chemin. Mais le verset 27 nous dit qu'il y en a peu qui l'empruntent. Alors voilà ma compréhension de l'élection ici dans Romains 9. Bon, certains adeptes du calvinisme, peut-être les plus extrêmes, me diront sans doute que ma compréhension de Romains 9 à 11 ne tient pas la route. Mais moi, je leur répondrai que si j'adopte leur compréhension du texte, bien, c'est le reste des Écritures qui ne tiendra pas la route. Je ne peux pas interpréter Romains 9 à 11 sans tenir compte du reste de l'Épître, ni de l'ensemble des écrits bibliques. Comme je ne peux pas non plus lire le reste de la Bible sans tenir en compte Romains 9 à 11. Ces chapitres s'insèrent dans la révélation progressive du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Et ils ne peuvent donc pas venir en contradiction avec le reste de la Bible ou le reste de l'Épître, finalement. Ceux qui croient que Dieu a choisi et appelle seulement certains privilégiés ont de la difficulté à expliquer des paroles de Jésus comme celle de Matthieu 22, 14, qui dit « Car il y a peu d'appelés, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ou un texte comme, encore, Apocalypse 3, 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, voyez-vous que dans ces deux textes-là, il y a une place pour le libre arbitre de la personne. La personne a une décision à prendre, a une position à prendre. Et elle est entièrement responsable de cette décision, de cette position. Alors, les personnes hyper-calvinistes doivent extrapoler et dire qu'en fait, c'est un appel irrésistible que certains vont avoir et ils ne peuvent même pas dire non à cet appel, alors que d'autres ne peuvent même pas dire oui et ils répondent favorablement parce que Dieu les en empêche. C'est ce qu'ils appellent la double élection. Mais come on! C'est pas comme ça que le reste des Écritures nous présente Dieu. Nous serions alors comme des petits robots qui ne sont même plus responsables de la réponse qu'ils vont donner à cet appel. On pourrait nous exclamer, comme l'ami imaginaire de Paul, « Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? » Paul avait anticipé cette mauvaise compréhension des Écritures. Mais je veux qu'on regarde, j'avais déjà préparé 3-4 textes, 3-4 histoires pour nous démontrer vraiment comment est Dieu, mais je vais juste garder celle-là. Vous allez tourner avec moi dans Matthieu 23. Matthieu 23, verset 37, c'est lorsque Jésus entrait dans Jérusalem et il s'est écrié « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés? » Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voyez-vous ici, Jésus est en train de mettre le cœur de Dieu sur la table, de nous révéler comment est le cœur de Dieu. Dieu a beau vouloir, même si Dieu veut nous rassembler, nous sauver, on doit vouloir nous aussi. On a une part dans cette décision. En fait, notre capacité de décider ou notre libre arbitre fait partie du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça fait partie de l'image de Dieu en nous. Nous sommes appelés à répondre favorablement à cet appel. Nous sommes entièrement responsables de cette réponse. Dieu ne nous oblige pas à obtempérer à sa volonté, même celle de nous sauver. Mais par contre, il peut pleurer devant notre refus, comme Jésus le fait ici. Maintenant, je vais vous demander juste de sauter une page, aller à la suivante, avec juste l'image du potier. J'imagine plutôt le grand potier qui est en train de pleurer en façonnant son vase en sachant qu'il lui sera rebelle plus tard, qu'il rejettera son propre créateur, qu'il crachera au visage de son fils. Et en disant, j'aurais tellement voulu qu'il en soit autrement. Ce chapitre de Romains parle donc, selon moi, de l'élection et de la prédestination comme étant les conditions que Dieu a établies pour devenir les héritiers de la promesse faite à Abraham. C'est ce que le contexte de l'Épître nous oblige. L'élection et la prédestination répondent à la question de l'ami imaginaire de Paul pour les promesses faites à la descendance d'Abraham. Ceux qui sont la postérité d'Abraham, les vrais héritiers de la promesse, ce sont ceux qui répondent à cette condition. Voilà le chemin que Paul a pavé quand nous tenons compte des 8 premiers chapitres de son épître. Ça, c'est l'évangile de Paul. Voilà pourquoi Jésus est la pierre d'achoppement, le rocher de scandale qu'on a lu au verset 33, parce qu'il refuse ce seul chemin. Le seul chemin que Dieu a établi et décrété, eux, ils passent à côté de la seule porte que Dieu leur ouvre pour le paradis. C'est pourquoi Paul, au début de son chapitre, a voulu mettre les choses au clair, qu'il n'a rien de personnel contre son propre peuple, les Juifs, et qu'il voudrait bien que ce soit autrement. Mais ils ont rejeté leur seul espoir, la seule condition que Dieu avait suscitée pour qu'ils soient les héritiers de la promesse. Le peuple élu de Dieu depuis l'origine. Résultat, les versets 30 et 31. Israël ont rejeté parce qu'ils le cherchaient une loi de justice et non pas au bon endroit. Maintenant, Dieu est omniscient. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour nous. Parce qu'on est prisonnier du temps. On est impuissant par rapport au passé, on est complètement ignorant par rapport au futur. Alors que pour Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu savait déjà de toute éternité qui seraient les enfants qu'il rejetterait lorsqu'il nous a créés. Même dans le ventre de notre mère, il nous a fabriqués en fonction de cette réponse que nous allions donner à son appel. C'est pour cette raison que l'auteur parle d'élection et de prédestination en rapport avec la personne de Dieu. Dieu savait qu'un jour, Jacques Plante ferait partie de ses enfants. Paul n'est pas en train d'élaborer une doctrine nouvelle qui va changer la description que la Bible avait faite de lui. Il confirme de Dieu. Il confirme que la promesse n'est pas tombée à l'eau. Que nous nous sommes juste seulement mépris sur les vrais destinataires de la promesse, ceux à qui elle était vraiment destinée, les vrais élus. Alors, j'aimerais ça revenir à l'illustration, l'histoire que Sakan nous avait racontée il y a 2 semaines. Il nous avait parlé un peu d'une histoire de sa grand-mère qui avait vécu dans une église et que deux dames s'étaient dit finalement, on ne peut pas aller parler à nos voisins tout à coup qu'ils ne sont pas élus puis qu'ils se convertissent, qu'est-ce qui va arriver? Vous vous rappelez de cette histoire? Donc, si la façon dont tu comprends Romains 9 t'empêche d'annoncer l'Évangile, tu es dans l'erreur. Paul, nous le verrons, dans le chapitre 10, nous encourage à aller prêcher la bonne nouvelle. Alors, il ne peut pas nous dire ici que ça ne sert à rien. Ce serait totalement illogique de sa part. Ce n'était clairement pas son but non plus. Dans sa grâce, il veut t'utiliser pour annoncer la bonne nouvelle que Paul nous expose ici. Alors, nous verrons notre responsabilité dans 2 semaines. Mais en attendant, va et partage avec les gens quel Dieu merveilleux nous avons, comment il est patient et miséricordieux envers nous, envers eux. Qui ne voudrait pas appartenir à un Dieu comme celui-là? Et dans cette période de panique par rapport au COVID-19, je pense que les gens ont encore plus que jamais besoin d'entendre parler de ce Dieu extraordinaire qui est le nôtre. Donc Dieu connaît les élus, pas toi. Tout ce que nous savons, c'est que ceux qui vont se repentir et placer leur foi en Jésus vont être sauvés. Alors ça ne change rien à ta façon d'aller. L'élection et la prédestination n'affectent en rien ta relation avec les non-croyants, sinon pour leur déclarer que c'est un Dieu merveilleux que nous avons. Un Dieu qui voudrait tellement les voir répondre favorablement à son appel. Un Dieu qui voudrait qu'ils empruntent le chemin que Paul nous présentera dans le début du chapitre 10, qu'on nous allons voir la semaine prochaine. Donc finalement, Romains 9, c'est un très beau chapitre. Surtout quand on le regarde dans le vrai sens, le VS du texte. Donc, prions. Bien oui, Seigneur, on veut te remercier que tu es un Dieu si extraordinaire. Merci de ce que tu nous as aimé, de ce que tu as été patient envers nous, de ce que tu es patient aussi envers les personnes qui ne te connaissent pas, qui te rejettent toujours, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous d'être des témoins fidèles. Aide-nous à briller présentement dans cette période de panique, Seigneur, et glorifie ton nom. Et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Bonne semaine, à la semaine prochaine.